I'm not surprised, motherfuckers.
Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode numéro 86 du Guillotine Podcast aujourd'hui. UFC Kansas City, review des combats, analyse de la carte prélim main card. Quelques combats uniquement, les combats qui m'intéressaient. Parce que mine de rien, ces petites cartes avaient quand même quelques combats sympas, que ce soit dans les prélims, alors qu'il y a des combats qui n'auraient jamais dû être dans les prélims, on va en reparler, et des combats cool aussi sur la main card. Et le premier combat qui m'intéressait, mais c'était l'entrée dans le UFC de Gaston Bolanos, qui était à 6-3 en MMA Pro, qui a eu quelques combats chez Bellator, qui a eu des victoires vraiment belles chez Bellator, avec des coups de coude retournés viraux, qui ont fait beaucoup de bruit sur Twitter. Et un gars aussi qui a un passé quand même assez actif en Muay Thai, bon, certes pas Muay Thai Stadium, etc. Mais quelqu'un qui a quand même fait des championnats mondiaux, etc., qui a beaucoup combattu, qui nous vient du Pérou et qui a déménagé en Californie à un moment donné dans sa vie, et qui s'entraîne, il me semble, chez CSC, signé chez Iridium, donc, et je pense que ça l'a beaucoup aidé pour ce combat. Rentrons directement dans le vif du sujet. Gaston Bolanos domine le round 1 de façon très intelligente. J'aime bien comment il envoyait les kicks. Beaucoup de singles, mais c'était surtout, je pense aussi, pour garder la distance face à son adversaire, le repousser, parce qu'Aaron Phillips est une black belt et Gaston Bolanos, lui, vient à la base du striking, donc c'est assez récent, on va dire, pour lui, le MMA au final. Et donc beaucoup de single shots qui sont bien placés parce qu'il est plus rapide dans ses déplacements au niveau du striking. Il prend de meilleurs angles, etc. Il arrive à passer beaucoup de roundhouse sur Aaron Phillips, quelques low kicks, etc. Pour l'instant, propre dans le premier round. Je pense aussi qu'il ne veut pas se faire prendre au sol, mais ça va vite tourner dans le deuxième et dans le troisième. Dans le premier et dans le deuxième, directement Aaron Phillips lui saute dessus sur un takedown que Gaston Bolanos n'a pas su défendre directement le premier, alors que c'était un peu sloppy. Il a essayé de reprendre le dos derrière, il s'est retrouvé par deux en dessous de son adversaire. Bref, Aaron Phillips arrivait mieux à timer ses takedowns, mais Gaston Bolanos a réussi à se relever plusieurs fois. Ça, c'était le gros test. Est-ce qu'il serait capable de se relever aussi face à un black belt? Bon, après, c'est pas son premier combat en MMA, mais pour les gens, je pense que c'était important d'essayer d'être meilleur dans ces eaux-là. Et il s'est quand même fait mettre au sol plusieurs fois. Et malgré tout, il a été plus actif, surtout dans le premier, dans le troisième. Je pense qu'il y a eu des 30-27 aussi de la part des juges, ou 29-28, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, je crois qu'il y a eu un 30-27. En tout cas, il avait pris deux rounds, hein. Mais le troisième, il y a un truc qui m'a beaucoup gêné, c'est qu'il gagnait à un moment donné et il s'est fait prendre son dos pendant 2 minutes parce qu'il s'était fait mettre au sol. Mais ça, au final, il arrivait à défendre les mains. Il a même réussi à sortir d'un body triangle, d'un body lock. Donc, c'était pas mal à ce niveau-là, mais à la fin, il a envoyé trois coups de coude retournés. Je pense qu'il voulait absolument aussi, à un moment donné, il était peut-être un peu nerveux et vouloir faire le show et absolument en refaire un, pour faire un gros statement au UFC, mais au final, le troisième, l'autre, évidemment, l'a vu venir, hein, parce qu'il en envoyait deux un peu de nulle part. Le troisième, il l'a vu venir. Et il s'est fait reprendre son dos. Ça, c'était bête, vraiment bête et pas nécessaire pour Bolanos, qui remporte finalement quand même le combat par décision unanime. Mais il y a clairement du défaut à corriger. Après, je pense que c'est pas du tout le niveau du championship matériel, etc., hein, surtout dans une KT qui est très compétitive, hein, les featherweight, mais quand même il a sa place au UFC si il continue à ce niveau-là, et puis notamment s'améliorer comme je dis sur des points au niveau du grappling, la nervosité, la défense de takedown, être un peu plus intelligent, mais je pense qu'il y avait de la nervosité qui jouait aussi. Mais bravo quand même Gaston pour la première victoire au UFC. Et le combat qui devait absolument être sur la main card, qui aurait pu être un co-main event d'ailleurs, je pense, et qui s'est retrouvé dans les prélims, c'est Nicolao face à Brandon Royval chez les flyweight, top 4 et top 5, et ce qui pourrait être un title shot eliminator. Et puis on se le retrouve avec les prélims. Je me demande si l'histoire d'amour-haine entre l'UFC et les flyweight et pas en continuation depuis toujours au final. Je sais pas pourquoi ils leur font ça, les flyweight. Ça fait aucun sens, surtout que le combat est complètement livré, puisque on a eu un chaos de fou de la part de Royval, avec un genou super bien timé sur le menton pile de Nicolaou. Ça allait vite hein, dans le premier round. On n'a pas eu le temps de voir grand-chose hein, au final. Ça s'est fait, je sais plus, 2-3 minutes, quelque chose comme ça. Et certes, on a eu quelques échanges, mais bon, c'était plus limite du touche-touche. Et puis le vrai premier gros touche, ça a été très vite, ouais, c'est ça, 2 minutes. Donc on n'a pas eu le temps de voir grand-chose. Brandon Royval, au final, était patient. Matteo Nicolaou était un peu plus à reculons, on va dire, mais les déplacements étaient super bons pour sortir sur les côtés. Hein. Les flyweight, ça va vite. Il y a moyen de sortir de cette situation quand tu te fais pousser sur la grille, etc. Généralement, c'est plus rapide que dans les catégories plus lourdes. Hein. Donc c'était quand même complètement fou ce KO flashy, tout simplement, flashy, pardon, parce que le timing du genou était incroyable. Il a fallu que Nicolaou baisse un tout petit peu la tête, enfin même pas, au final ils sont pas grands non plus, donc du coup avec un genou un peu haut, ça a touché pile le menton, et puis Nicolaou s'est retrouvé au sol direct, suivi derrière, et puis 15-6 pour Brandon Royval. Voilà, hein, lui, ça avance bien pour lui aussi. Enfin, je veux dire, lui, c'est pareil. C'est le gars, il a combattu déjà un sacré paquet d'assassins chez les Flyweight, Kai Kara France, Brandon Moreno, Alexandro Pantera, Matt Schnell, Matheus Nicolaou. Ça va quand même. Cette KT est quand même fucking nice. Ça continue. On a plein de putains de bons. J'ai pas envie de dire contenu, c'est horrible comme mot pour des combats. Mais plein de bangers qui nous attendent, quoi. Je veux dire, ça peut continuer encore et encore, et puis j'ai envie d'en revoir et d'en revoir, et puis, en plus, vous voyez les combats qu'on a, quoi. Certes, comme je vous le dis, ça allait vite, Matheus Nicolaou a pu mettre 2 coups au final, et c'est des combats de fou, et puis ça va tellement vite, c'est super bon, les flyweight, on les aime énormément, et puis on va les revoir bientôt, j'espère. Bravo, Brandon Royval. Combat que j'ai pas voulu regarder, mais il faut quand même souligner la victoire de Ion Cutelaba. Incroyable, ça faisait longtemps qu'il n'en avait pas gagné une. J'ai pas voulu écouter le speech parce que je sais pas, je pouvais pas écouter Ion Cutelaba dire quelque chose comme genre je reviens, je vais chercher les plus forts, etc. Chez les light heavyweight. Par contre, le combat qui m'intéressait derrière, Azamat Murzakhanov face à Dustin Jacoby, ça m'a vraiment, vraiment pas mal plu quand même. Parce que chez les light heavyweight, encore une fois, Azamat Murzakhanov a livré un super beau premier round, on va dire plaisant à regarder. Il a baissé en régime jusqu'au, on va dire, dans le troisième où ça a été un peu plus dur. Mais au niveau des strikes, avec les mains surtout, bon, c'est plus style kickboxing, mais ça avançait beaucoup, et puis pas mal de overhand avec beaucoup de power, mais quand même bien timé. Et même si son adversaire était plus grand, Dustin Jacoby, il avait peut-être un peu de mal à vraiment connecter, à timer le 1-2 sur la main arrière par exemple. Il va quand même attaquer beaucoup le corps intelligemment aussi, je pense, pour faire mal à son adversaire, pour casser le rythme, et puis pour le fatiguer tout au long des rounds. T'essaies de capitaliser là-dessus à un moment donné. Mais quand même pas mal au niveau volume. Clairement, dans le deuxième, on baisse un peu de rythme, et Dustin Jacoby se réveille un peu avec quelques éclairs, quelques fulgurations. Mais je le vois pas essayer de capitaliser vraiment là-dessus. Et puis dans le 3, on est un peu sur la même dynamique. Où Dustin Jacoby doit accélérer, mais même si son adversaire est cuit, il n'arrive pas forcément à passer la seconde et vraiment faire très mal au bonhomme. Par contre, dans le deuxième, il y avait toujours un peu plus, je trouve, de volume significant et qui fait mal de la part de Murzakhanov. Donc je pense que bon, on est correct sur les deux premiers. Le troisième, c'est Dustin Jacoby qui l'a eu. Je crois que les trois scores étaient 29 et 28, me semble-t-il, à raison. Donc ouais, quand même cool. 35 ans, il doit être bientôt. Il va sûrement rentrer dans le classement, hein, j'ai envie de dire, vu que c'est pas très très pas très glorieux chez les light heavyweight. Mais ouais, il est invaincu en pro en MMA. Ouais, quand même pas mal. J'aimerais bien le revoir. Par contre, avec peut-être un peu plus de cardio dans le troisième, ça aurait été bien. Parce que je pense que. Mais après, Dustin Jacoby aussi a quand même, genre, a pris cher. À un moment donné, il était contre la grille. On a pris des grosses, mais il n'est pas tombé. Donc, je pense qu'il y a aussi un bon menton de l'autre côté. Belle victoire, quand même. Même si à la fin, c'était clairement queue de poisson pour Azamat Murzakhanov. Bravo à lui quand même, et puis encore une fois, on est chez les light heavyweight, donc il y a de la place, j'ai envie de dire, pour aller taquiner un peu le classement et la compétition, s'il y en a une. Et quel co-main event! Alors, celui-là, il était certes, je pense toujours que les flyweight auraient leur place au co-main event, mais très beau co-main event sur le papier qu'est cette Anson Barboza face à Billy Q-Berry, Billy Quarantillo. Quel fighter Barboza quand même, parce que lui alors il en aura fait hein, des combats chez les lightweight, des Bobby Green, des Michael Johnson, des Paul Felder, des Tony Ferguson, des Anthony Pettis, Benel Dariush, Khabib Nurmagomedov, Kevin Lee, Dan Hooker, Justin Gaethje. C'est la définition du gars qui ne refuse pas le combat. Vous savez, le fameux gars, je ne refuse personne, n'importe qui, n'importe quand. Eh ben, Edson Barboza, c'est ce mec. Eh ben, Billy Quarantillo en a fait les frais. Parce que je le pense toujours et je l'ai toujours pensé ces dernières années, même si Edson Barboza a une fiche à la Rocky, Edson Barboza est toujours dangereux. Toujours. Et Billy Q aussi a été dangereux. Hein, je veux dire, il n'hésitait pas à aller dans le brawl. Il en a pris beaucoup au corps. Il en a pris quelques-unes dans la face aussi. Mais Edson Barboza a récolté quelques pêches aussi, il faut le dire quand même. Parce que Billy Quarantillo a beaucoup, beaucoup swingé. Alors, ça, je pense que c'est pas forcément la meilleure technique face à Barboza. Mais bon, si tu veux essayer de le knockout, c'est respectable aussi. Après ça, Barboza est plus à l'aise en striking. Alors du coup, Billy Q pousse un peu contre la grille. Il le fait travailler très très fort au niveau de la lutte contre la grille, hein, et beaucoup d'intensité de la part de l'Américain. Edson Barboza défend bien le gars de la bouteille en MMA en général, et puis il est bon en jiu-jitsu aussi. Enfin, il sait lutter, il sait tout faire, même si c'est un striker pur jus quand même, en produit MMA, j'ai envie de dire. Pareil, hein, contre la grille, il était à l'aise, et puis il a été tellement à l'aise qu'au final, il a réussi à timer une entrée de takedown de Billy Quarantillo alors qu'il était dos à la grille. Puis il a timé parfaitement ce knee qu'il savait qui allait arriver pleine poire, pleine mâchoire, encore une fois, hein, de Billy Q Quarantillo. Qui a fait un faceplant direct derrière, hein, je veux dire, sur un genou comme ça, pleine poire, alors que tu fonces dedans en plus, il fonce dedans pour un takedown, ben, c'est dodo, hein, c'est bye bye, et puis il savait plus trop où il était d'ailleurs en se réveillant, il était là, what? What? À l'arbitre, bah ouais, non mais ouais, pauvre gars était plus vraiment là, ouais, Edson Barboza, du talent, en MMA, en striking, puis des KO impressionnants, il était vraiment, vraiment super beau. Quel gars, bon après il dit ouais, j'ai jamais été aussi en forme de ma vie, etc. etc. On le connaît ce speech là, t'as 37 ans, chacun en pensera ce qu'il voudra. Moi je pense que les fans ont de l'amour pour toi, de toute façon, quoi qu'il arrive, parce que tu nous sors des folies de ce genre là. On kiffe Edson Barboza, dur pour Billy Q qui prend un sale KO, mais voilà, c'est la dure loi des featherweight, c'est une compétition intensive. Dans une catégorie très excitante du UFC. Merci Edson Barboza, la légende. Je le dis, la légende. Puis ce main event, quand même, qui certes portait la carte, mais d'autres très beaux combats, on l'a vu. Quelle folie qu'est au final aussi, Title Shot Eliminator, normalement, je pense, du moins chez les Featherweight, entre Arnold Allen et Max Holloway. Max Holloway, qui je trouve, a toujours été, après ses défaites contre Volk, qui a été le gars impossible à battre. À chaque fois que tu voulais aller chercher un title shot, il y avait le gatekeeper premium méga plus plus, qui est Max Holloway, tout en haut, et qui t'attend et qui dit non, généralement. Holloway dit non. Holloway veut rester un champ et même si Holloway a perdu 3 fois contre Volk, Holloway a toujours cette putain de mentalité de tueur slash champion. Et ce combat contre Arnold Allen a été un repeat de plus dans le talent, la gestion des combats et le niveau de haut vol face au final au restant de la compétition chez les featherweight. Alors le premier round clairement était pour Holloway qui, on voyait dans la première minute là, la vitesse de ses mains, on se disait qu'il allait peut-être pouvoir avoir un problème de différence de niveau face à Arnold Allen, mais on a eu un vrai combat entre les deux. Premier round par contre clairement pour Holloway et deuxième pour Allen qui s'est réveillé. Dans le sens où ça a été très dur, je pense, pour Arnold Allen de bien gérer la distance aussi chez Holloway. Un petit peu plus de mal à reculer. Holloway se déplace mieux en avançant, rentrant, entrée, sortie. Ça poke et ça sort, ça poke et ça sort. Mais quand Holloway poke, c'est pas juste un petit jab. Holloway, genre, sait envoyer des bons 1-2 et des 1-2-3 des fois aussi. Jab, droite, crochet. Puis il se déplace vraiment bien. Il a été obligé de faire attention à ça parce qu'il s'est fait connecter plusieurs fois, mais il a été obligé de vraiment de sortir directement sur les côtés à chaque fois qu'il finissait ses combinaisons. Et vite, parce que Arnold Allen a été un bon counter-striker et a touché Max Holloway plusieurs fois. Max Holloway qui aussi a su rentrer dans le round du counter quand il le fallait, dans le deuxième notamment, même si je pense Allen a pris le deuxième avec plus de significant strikes, plus de grosses droites, plus de patates. Holloway a toujours aussi cette très bonne garde, même si je sais je me contredis dans le sens où il en prend plusieurs, mais à chaque fois qu'il y a eu des gros coups, généralement un gros coup qui pourrait t'envoyer au sol, il avait toujours son téléphone ou alors la main en haut, etc. Je l'ai trouvé quand même discipliné, la patience, la discipline, la marque des champions, le talent, le travail, etc. Oui, bien sûr, mais la discipline et la patience. Ça, la patience, c'est fou. Et Max Holloway, avec le nombre de 5 rounds qu'il a fait comme combat genre dans sa carrière, et la cardio qui tient tout du long, quoi, c'est incroyable. C'est limite le combattant parfait à ce niveau-là. C'est un autre niveau. Et puis les autres, on paye le prix à chaque fois, quoi. On paye le prix, tout le temps. Yair, Brian Ortega, Arnold Allen, enfin voilà. Des gars qui avaient clairement la carrure d'un gars pour aller chercher un titre. Je dis pas forcément le gagner, hein, parce que c'est Volk, hein, évidemment, tout en haut. Mais qui méritait sa place pour aller chercher un title shot. Donc dans les 3, 4, 5, Holloway est super à l'aise. Et Allen aussi. Même s'il perd la plupart de ses rounds, surtout 3 et 4 là clairement entre le 4ème et le 5ème Firas le regarde et puis il sait qu'il attend quelque chose de lui, il lui dit faut que tu ailles plus, il va falloir que tu ailles le chercher le knockout en gros quoi, et Arnold Allen regarde Firas et lui dit World War 3 et Firas lui répond World War 3 et j'étais là genre fuck yeah man, ça va être une folie ce round 5 et quel round 5 Allen nous a sorti. Ça m'a vraiment impressionné de sa part le fait qu'il soit capable d'avoir autant de putain d'essence dans le réservoir dans le cinquième round. Parce que il a clairement foncé, il a clairement essayé de le knockout. Bon, à la fin, il a essayé de plus lutter contre la grille, on n'a pas forcément compris. Et les 10 dernières secondes, on a eu droit à un remake de... je sais plus qui c'était contre Max Holloway, mais où ils ont brûlé à la fin sur un accord commun. Hein, ils se sont serrés la main à se dire « Allez, mettons-nous sur la gueule dans les 10 dernières secondes, risquons tout. » Un peu, voilà. Celui qui gagne, celui qui met le dernier but a gagné la game, en gros, quoi. Et même cet échange-là, c'est Max Holloway qui l'a gagné ces 10 dernières secondes parce qu'il s'est mis en grosse position de danger, mais même ça, il le maîtrise. Arnold Allen a avancé sur lui avec un coude qui arrivait genre pleine mâchoire, vraiment bien placé de la part de Allen. Holloway, on aurait pu croire qu'il aurait été roqué, mais derrière, il en a envoyé 3 qui ont mis Allen pas, ouais, à genoux. Il avait un genou au sol parce qu'il s'en était pris genre 2 vraiment belles l'une après l'autre. Et puis la cloche sonne, quoi. Allen a dû foncer dans le cinquième. Il avait un gars qui est pas battable, je pense, de toute façon, pour lui, en face de lui, tout simplement. Et puis Max Holloway remporte encore le combat, la décision, quoi. Mais quel talent encore d'Holloway. Et puis quel niveau au-dessus, quoi. Il est au-dessus de ses adversaires, quoi. C'est Volk. C'est Volk le problème, quoi. C'est dur maintenant d'être à sa place parce que On lui envoie des gros défis et puis les gros défis, il y répond très bien, il les gagne. Donc c'est dur, mais putain, mais qu'est-ce qu'on l'aime Blast aussi, quoi. Genre, en tant que, encore une fois, en tant que, si t'aimes le sport, là, tu regardes les combats d'Holloway, t'apprécies le champion, t'apprécies le non-champion pareil, t'apprécies ses combats parce que il donne beaucoup, il donne beaucoup, et puis il est propre, et c'est beau à voir, quoi, on se régale. Putain, merci Max et bravo à lui. Et puis encore une fois, la suite, qu'est-ce que. Je sais pas, encore une fois, c'est compliqué. On a, je crois, on a le combat pour International Fight Week entre Yair et Volk. Voilà, tu sais, c'est Yair a perdu contre Max, mais Yair a un title shot. Alors que Max vient de gagner contre Allen. Donc, on verra. On verra. La suite, on en reparle très bientôt. Et merci beaucoup pour cette écoute. Ah ouais, et puis si vous voulez follow sur Spotify ou alors sur Apple, si vous écoutez dessus, ben, c'est cool si vous le faites. Merci, hein. At the end of the day, it is what it is.